foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui avec Monsieur Roger Attali. Bonjour.
Bonjour.
Shalom, Shalom. Dire, puisque vous venez comme vice-président du CRIF et d'Hébraïka, mais vous parlez en votre nom propre, nous présenter les fêtes d'automne. Parce que c'est, on appelle ça Tishri.
Tishri, c'est le mois qui contient ce qu'on appelle la convocation d'automne, parce que c'est une convocation au tribunal.
Ça commence par le nouvel an juif, puisque vous êtes nos aînés dans la foi, j'allais dire, 5783. Voilà. Et oui, on est tout petits. Oui. Mais il y a ceux qui nous ont, qui sont venus après nous, et l'islam et nos amis musulmans, ils savent aussi que c'est important l'ère de l'égir avec une nouvelle période. Et puis il y a ceux qui pensent que Karl Marx a apporté une révolution.
Absolument.
Et que le monde va changer. Peut-être que nous avons d'autres prophètes aujourd'hui, mais vous venez nous parler de, essentiellement de, également de Yom Kippour et de la tête des cabanes.
Absolument, ce sont les trois grandes fêtes du mois de Tishri. Alors, ce que je voudrais dire en termes de temps, c'est que peut-être par rapport aux autres civilisations du Proche-Orient antique, le judaïsme a pu réussir à donner justement une dimension au temps. C'est un auteur qui s'appelle Abraham Heschel qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle « Les bâtisseurs du temps ». Il y a cette dimension de temps. Nous ne sommes pas insensibles au temps, même si nous savons que la temporalité n'est que provisoire et elle n'est que précaire.
Pour Dieu, pour Yahvé, pour Allah, un jour sont comme 1000 ans. Et nous sommes pourtant des êtres qui sont nés à un moment parce que notre père et notre mère se sont rencontrés. Mais je voudrais dire aussi que cette question du temps, par esprit de contradiction, n'est-ce pas, cher Roger, notre amitié me permet de dire ça, c'est
absolument.
Que lorsque j'ai écrit il y a quelques mois une réflexion sur les racines chrétiennes de l'Europe, alors j'ai dit judéo-chrétienne, hein, il ne faut pas se méprendre, à travers le regard des moines. Eh bien, un certain nombre d'auteurs contemporains disent que l'heure... La prière qui scande la journée avec un certain nombre de prières, c'est ce qui a permis peut-être d'inscrire dans la journée, puis dans la semaine, puis dans l'année, ce que nous sommes devant Dieu. Mais je parle trop, Roger.
Non, mais je pense que vous avez parfaitement raison, parce que vous savez que justement au temps de Jésus, il y avait en Judée, il y avait plusieurs mouvements spirituels qu'on a pu appeler des sectes pré-messianiques, dont la secte des Esséniens, qui a une forte connotation, on va dire, monastique. Parce qu'il y avait des exigences et des contraintes qui n'étaient pas...
La pureté à Qumran également.
La Qumran, absolument. La pureté, le fait d'éviter des contacts physiques, la pureté par les bains rituels, etc. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui sont des éléments qui se rapprochent, c'est évident.
Un certain rabbin, Jésus de Nazareth, je crois, arrivait parfois à manger sans se laver les mains. C'était pour l'époque. Alors, bon, il faut quand même dire que c'est heureusement que les Juifs du temps de la Grande Peste se lavaient les mains. Ça leur permettait d'être un petit peu moins sensibles.
Absolument.
Et nous avions la semaine dernière notre amie Diane qui nous a parlé des masques, de leur insignifiante ou bien de ce qu'elle considérait comme un scandale d'être masqué et de cacher son visage. Mais là, nous ne sommes pas dans ce
pas
que vous nous aviez dit, Lévinas,
oui,
la dernière fois que vous êtes venu
tout
nous honorer de votre visite.
Tout à fait. Alors, nous venons de terminer l'année 5782. Alors, nous avons une expression dans le judaïsme qui dit « L'année ancienne se termine avec ses malédictions, l'année nouvelle commence avec ses bénédictions ». Et ceci pendant en particulier tout le mois qui vient de précéder le mois de Tishri, c'est-à-dire le mois d'Eloul. Le mois d'Eloul, c'est le mois... vous savez, nous avons 12 mois, comme 12 tribus. Nous avons 12 fêtes dans le calendrier, comme les 12 tribus. Hein, il y a donc toujours une signification symbolique sur le plan numérique. C'est ce qu'on appelle la gématria dans le judaïsme. C'est un jeu de chiffres et de lettres qui fait que nous avons toujours la possibilité de jongler, en fait, avec le temps, la géographie, etc.
La linguistique.
Et la linguistique.
Mais Yom Kippour, justement, c'est aussi le grand pardon, où on peut enfin se libérer. Et c'est pas le pardon envers soi-même et envers les autres, mais c'est pardon devant Dieu. Et cette grâce que Dieu nous accorde chaque année de repartir. J'allais dire une résurrection, mais non, un nouveau départ,
tout à
cette
fait.
Confiance
Alors,
en soi.
Le Rosh Hashanah, donc Rosh Hashanah en hébreu, ça veut dire la tête de l'année. C'est le début de l'année, c'est la tête de l'année. Et donc, c'est un temps de bilan et d'examen de conscience. Ça permet de prendre conscience de ce que nous avons fait, du bilan de notre vie, pour pouvoir éventuellement envisager de trouver un refuge idoine, en quelque sorte, afin d'effectuer des réparations nécessaires pour avoir de nouvelles conditions plus douces pour la nouvelle année. Et c'est un mois de repentir et de miséricorde, en fait. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, il y a 10 jours, qu'on appelle les Yamim Noraim, c'est-à-dire les jours redoutables. Vous savez, il y a le philosophe Søren Kierkegaard qui a écrit un livre qui s'appelle « Crainte et tremblement ». Nous sommes dans une forme de crainte et tremblement pendant ces jours-là, puisque nous sommes en situation de jugement, nous passons devant un tribunal. Et c'est le jour de Yom Kippour que Dieu décide qui mourra, qui vivra, qui sera abondant, qui ne le sera pas. C'est ainsi que la tradition a présenté la fête de Yom Kippour. Mais sachez que Yom Kippour, nous l'exprimons avec un singulier, mais nous l'exprimons aussi avec un pluriel. Nous disons Yom HaKippourim, c'est le jour des pardons, il y a différents types de pardons. Il y a le pardon que nous nous faisons les uns vis-à-vis des autres, il est beaucoup plus difficile à obtenir que celui que nous obtenons avec Dieu.
Et celui parfois avec nous-mêmes.
Et avec nous-mêmes, bien évidemment.
Et si ton cœur, nous dit le psaume, te condamne, Dieu est plus grand.
Absolument. Et ce que le public, le grand public ignore relativement souvent, c'est qu'il y a également le pardon que Dieu demande à l'homme pour le mal qu'il lui a proposé. C'est quelque chose...
Mais c'est sa liberté.
C'est sa liberté, absolument. C'est la liberté de l'homme et c'est la liberté de Dieu.
Et puis il y a aussi le mal qu'on peut faire à la nature. Et là, nous n'allons pas rentrer dans le débat sur notre sœur, notre mère nature, et Gaïa qui se venge si nous ne
tout
faisons pas assez attention
à elle. Et elle se venge terriblement en ce moment. Mais justement, il y a une dimension écologique dans les fêtes de Tishri. Donc le mois de Tishri, c'est le mois donc, des trois grandes fêtes du calendrier. Donc Rosh Hashanah, je vous disais, c'est la tête de l'année. Alors, pendant tout le mois qui précède la fête de Rosh Hashanah, nous lisons beaucoup le psaume 27. C'est un psaume très important. Et il est suivi également de ce qu'on appelle les Selichot. C'est-à-dire très tôt le matin, avant l'office du matin, nous lisons un certain nombre de supplications de miséricorde pour se préparer et demander à Dieu d'être dans de bonnes dispositions vis-à-vis de nous. Puisque un des éléments que nous nous souhaitons pour la nouvelle année, c'est d'être inscrit dans le livre de vie. C'est l'une des demandes que nous faisons avec le plus de ferveur possible. Voilà.
Et c'est déjà la transition, puisque nous sommes aussi des nomades, et donc après Yom Kippour, nous construisons des cabanes.
Absolument.
Pour dire que nous sommes
de passage.
Itinérants de
voilà,
passage.
Tout à fait, absolument.
Mais revenons peut-être à ce psaume 27, puisque vous nous avez apporté aussi le psaume 150, le dernier de la Bible, que nous soyons de la Réforme ou que nous soyons de la première ou de la seconde alliance, ce psaume qui rend grâce à Dieu, car tous les jours, le matin, nous rendons grâce à Dieu d'être vivants,
Absolument.
De nous être réveillés, comme les Égyptiens remerciaient le soleil d'être revenu sur la terre.
Tout à fait. Alors, le psaume 27, le premier vers, c'est « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Le Seigneur est le rempart qui protège ma vie, qui redouterais-je ?»
Donc merci, et nous écoutons Esther Lanandier, non seulement de qui aurais-je peur, même pas du virus ni de la peste, ni peut-être de la haine et de la guerre, c'est déjà plus difficile, oui. Mais pour cela, nous rendons grâce à Dieu. Vous allez nous dire pourquoi vous avez choisi Esther Lanandier pour le psaume 150. Alléluia, alléluia, mes corps chantent, alléluia, mes qui en vous ont, alléluia, mes gourdes, alléluia, cœur en vous, alléluia, mes tégas chantent, alléluia, mes nevres le verre, alléluia, mes temps vous manquent, alléluia, mes minimes vous donnent, alléluia, mes îles et les chambres,
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Et aujourd'hui avec Roger Attali, vous êtes le vice-président du CRIF et d'Hébraïka, mais vous venez nous parler en votre nom propre de ces fêtes d'automne. Nous avons commencé par le Nouvel An, Rosh Hashanah et Yom Kippour. C'est pour ça que vous nous avez apporté le chauffard qui sonne.
Absolument, le jour de Rosh Hashanah, c'est un moment extrêmement important. Alors vous savez que le shofar est un instrument de, on peut dire, de musique, mais qui est un instrument sacré plutôt qu'un instrument de musique, qui était fait à la base avec une corne de bélier dont on avait enlevé la moelle en quelque sorte, et qui est sonné le jour de Rosh Hashanah et le jour de Yom Kippour.
Et celui que vous nous avez apporté a été fabriqué à Sarcisco Kamiena, dans le camp des travaux forcés, où combien de vos frères et sœurs ont disparu. Et cette, je dois le dire, l'image JPEG a été composée en 2022 et déposée à Yad Vashem.
Tout à fait.
Ce qui alors, permet peut-être juste de faire la transition, puisque nous aurons bientôt cette marche, d'ailleurs jeudi prochain,
oui. Hein,
depuis le souvenir de la résistance, jusqu'à la synagogue Palapra.
Palapra. Tout à fait.
Cette marche, ceux qui nous écoutent aujourd'hui sont conviés pour que nous fassions le souvenir et que nous puissions ensemble marcher dans la paix à tous.
Et la fraternité.
Alors, Esther.
Alors, Esther Lanandier est une cantatrice qui a fait un travail énorme avec une musicologue, sociologue qui s'appelle Suzanne Haïk Ventura, qui a en fait retrouvé quelque chose qui aurait dû nous sauter aux yeux à tous, mais qui accompagne les textes hébraïques de départ, les textes bibliques, de ce qu'on appelle les théamim, c'est-à-dire des petites notations sur les lettres. Vous savez qu'au départ, nous n'avions que des consonnes. La vocalisation n'est intervenue que plus tard, hein, au moment de la conception du Talmud.
Comme après, pour le Coran. Alors, pas de virgule.
Voilà,
et dans la Bible de Jérusalem, dans la Torah, on a rajouté.
Absolument,
et parfois, c'est plus ou moins heureux. Mais bon, on aime bien, nous, cartésiens, nous, Européens, avoir des sous-titres.
Et alors donc, les théamim, en fait, indiquaient des sonorités dans la langue, c'est-à-dire qu'on chantait, et le chant avec les instruments de musique était autorisé dans le temple. C'est après la destruction, après la destruction du second temple, qu'il a été interdit de, à la fois d'avoir des représentations graphiques, peintures, sculptures, etc., et pas de musique non plus.
Alors que David dansait tout nu devant l'arche.
Absolument, c'était un personnage très étonnant, David. Alors, simplement, ce que je voudrais juste préciser, c'est que le son du shofar a une signification. Il y a trois sons importants dans le shofar. Il y a ce qu'on appelle la tekiya, qui est une sorte d'alerte. C'est comme le cri de notre conscience. C'est un son très fort, très puissant. Ensuite, nous avons les shevarim, Ce sont trois notes brèves qui représentent comme des sanglots dans la voix. Et le dernier son, c'est la terroir, qui sont des notes staccato, rapides.
Le souffle de l'esprit.
Absolument. Et qui est comme une plainte éperdue vers Dieu. Voilà comment le son du chauffard est perçu dans la synagogue par l'ensemble de l'auditoire.
Et c'est très impressionnant.
C'est très impressionnant, oui. C'est très émouvant. Comme, on se sent en étroit lien avec le Seigneur. En fait, rien ne nous sépare plus. Nous sommes, c'est le moment de la rencontre entre la conscience de l'homme et la bienveillance divine. Voilà.
Peut-être dans toutes les civilisations, parce que nos amis bouddhistes travaillent beaucoup sur question du souffle et de la respiration. Alors, un mot sur les cabanes que vous avez déjà commencé à construire.
Tout à fait, tout à fait.
Nous avons commencé. Rue des Feuillants.
Absolument.
Nos amis de la synagogue libérale ont déjà construit. Et d'ailleurs, toute famille juive qui se respecte, sur son balcon.
Absolument. Le soir même de la fin du jour du Yom Kippour, on commence à démarrer les travaux de construction de la cabane qui ont des règles très strictes de construction. Ce n'est pas n'importe quoi. Comment qu'on construit la cabane. Alors, pourquoi la cabane ? C'est à la fois de l'histoire et de l'écologie, parce que ça représente les 40 ans que le peuple juif a passé dans le désert à la suite de sa libération d'Égypte, de l'esclavage en Égypte par Moïse. Et peut-être ne le savez-vous pas, mais aucune des personnes qui avait séjourné en Égypte et qui est passée par le désert n'a pu rentrer en Canaan. Il fallait, en quelque sorte, purifier la population.
Ils n'étaient pas contents de ne plus avoir leurs petits oignons en Égypte et
Absolument. De
devoir jeûner dans le désert.
Absolument.
Mais là encore, mon esprit, peut-être démographe ou géographe, dit, mais était-il vraiment plusieurs centaines de milles à manger des cailles et de l'eau ? Est-ce qu'il n'y a pas une part de mythe ?
Bon, il y a une part de mythe, parce que des choses qui ne sont pas, en général pas dites ou pas, très peu discutées, mais il y a des Juifs qui sont restés en Égypte. Et des Égyptiens qui sont partis avec les Hébreux. Donc c'est quelque chose, le brassage universel
déjà.
En fait, qui a commencé déjà à ce moment-là. Une petite parenthèse, on dit dans la tradition kabbalistique que ce serait la première femme, pas Ève, mais Lilith, qui aurait entrouvert la mer des joncs, ce qu'on appelle la mer Rouge, pour pouvoir permettre aux Hébreux de passer. Donc elle n'était pas si mauvaise que cela, en quelque sorte.
L'ambivalence de l'être humain.
Voilà.
Et de...
Alors, ce qui est intéressant, pourquoi je parlais d'écologie, c'est qu'il doit y avoir place pour le soleil et la pluie, c'est-à-dire que les branchages qui couvrent la toiture doivent permettre, malgré tout, d'avoir à la fois un peu de soleil et aussi un peu de pluie quand il pleut. Et il est même recommandé de prévoir un peu de pluie pour que les cultures soient agrémentées en quelque sorte par le ciel.
Cette année, on a besoin des deux.
Et voilà,
la pluie. Et en même temps, nous pouvons aussi nous rendre compte que nous sommes très humbles puisque Dieu fait tomber la pluie sur les bons comme sur les méchants.
Absolument.
Et c'est pas à nous de décider
non.
qui est bon et qui est méchant.
Absolument. Et on doit pouvoir à la fois dormir et manger dans cette cabane. Et c'est en fait pour préciser la précarité de l'existence humaine avec son côté aléatoire, fragile. Et nous avons une cérémonie que nous faisons au cours de la prière dans la cabane, c'est le fait d'avoir entre les mains, vous l'avez certainement déjà vu, un loulav. Alors un loulav, c'est aussi une dimension écologique, puisque on agite en fait quatre espèces naturelles. Il y a trois plantes et un fruit. Il y a une branche de palmier, deux branches de saule, trois branches de myrte et un étrog qui est en fait un cédrat.
Alors, qu'on retrouvera également lors de la Haggadah de Pâques,
de Pessah, tout à fait. Alors, il y a au cours de la soirée, la première soirée de Rosh Hashanah, il y a un seder, donc un ordonnancement gastronomique, si je peux dire, un peu du même ordre. C'est un ordonnancement sucré et doux. On veut manger des choses douces et abondantes, des grains de sésame, des grains de grenade. On mange vraiment tout ce qui peut y être, tout ce qui peut être agréable au palais de l'être humain.
Comme on apprend les lettres aux jeunes enfants avec du miel.
Absolument, et il y a du miel. Nous mangeons de la pomme avec du miel.
Absolument. Les lois sont douces comme le miel, mais c'est quand même pour nous difficile de voir que certaines lois sont peut-être perçues comme emprisonnant notre liberté. Et alors, tous ces commandements, on va dire, certains vont dire, « Oh, mais alors les Juifs, ils ont 360... »
300, oui, 363.
Avec autant qu'ils soient négatifs que positifs, alors, n'est-ce pas 300, vous nous aviez dit ça la dernière
fois. Tout à fait, tout à fait. Nous avons les commandements à caractère positif comme « Honore ton père et ta mère », 248, et 365 qui sont négatifs, à savoir « Tu ne tueras point ». Donc tout simplement pour indiquer que l'homme est... C'est son lot, en quelque sorte, d'être humain, de pouvoir avoir la possibilité de choisir entre la vie et la mort. Et il choisit toujours la vie.
Et vous nous aviez parlé de Simone Veil lors de notre dernier entretien, parce que je vous avais demandé quels sont vos héros, les personnes qui vous ont marqué le plus dans votre vie. Bien sûr, vous auriez pu dire Spinoza et bien d'autres philosophes, puisque vous êtes enseignant au diplôme universitaire pour que certains qui souhaiteraient être aumôniers de prison ou d'hôpital puissent comprendre la laïcité.
Oui, tout à fait. Alors moi, je voulais vous proposer... on va dire trois entrées spirituelles, le Talmud, le mouvement chassidique et un auteur dont je vous recommande la lecture qui s'appelle Edmond Jabès, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le livre des questions ». Alors dans le Talmud, il y a un aspect que je trouve à la fois positif et un aspect ironique. L'aspect ironique, c'est « Si un homme te dit « tu es un âne », n'y prête pas attention ». Si deux te le disent, hâte-toi de t'acheter une selle. Ça, c'est le côté un petit peu ironique.
Le meunier, son fils est l'âne.
Voilà, exactement.
À qui obéir.
Voilà. L'autre aspect qui est plus philosophique et plus positif, même si les portes de la prière sont fermées, celles des larmes et de l'amour ne le sont jamais.
Le don des larmes. Voilà. Accepter notre misère.
Absolument. Alors ensuite, il y aurait l'aspect chassidique. C'est Rabbi Nachman de Breslau qui dit « C'est dans l'amour du prochain que repose la gloire divine ». Je trouve ça très, très beau et très juste. Et l'autre, c'est « Le meilleur des médicaments, c'est le silence ». Je trouve que là aussi, on apprend beaucoup de choses avec ce type de sagesse racidique. Ensuite, le Edmond Jabès dont je vous parlais, c'est, par exemple, « Quelle est l'histoire de l'homme ? La prise de conscience d'un cri. Quelle est ta vérité, celle qui me déchire ? Le monde existe parce que le livre existe. » Très beau. Et une autre pensée d'Edmond Jabès, le juif n'a que faire des ténèbres de la mort. Est-ce l'effet lumineux du miracle douloureux de ses blessures? Il se bat et compte les aurores qui le séparent de sa survie.
Je crois, Roger, que peut-être certains de nos auditeurs vont décrocher par rapport à cette puissance de la réflexion philosophique, mais peut-être je pense que pour la minute qui nous reste, nous pouvons ouvrir la Bible, la parole que l'on adresse à Dieu ou que Dieu nous adresse pour lire ce psaume que vous nous avez apporté, le psaume 150 que vous avez évoqué tout à l'heure,
absolument,
mais par lequel nous allons conclure notre entretien. Louons Dieu.
Alors, louez Dieu en son sanctuaire, louez-le dans le firmament, siège de sa force. Louez-le pour sa puissance, louez-le pour son immense grandeur, louez-le pour les sons stridents du chauffard, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et les instruments de danse, louez-le avec les instruments à cordes et la flûte, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue le Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Je pourrais peut-être conclure notre réflexion en disant que louons Dieu dans son sanctuaire, mais parfois nous ne savons pas si c'est à la synagogue, au temple, à la mosquée ou dans la nature que nous pouvons nous adresser à l'Éternel, à l'innommable, mais au plus profond de notre cœur et dans le silence de notre chambre.
Absolument.
Merci Roger.
Merci à
bientôt. Merci à Christophe
Merci
pour
à Christophe.
La technique.
Merci.